et bienvenue sur Monnaie Libre, nouvelle émission aujourd'hui avec un nouvel invité. Il s'agit d'un développeur informatique et alors qui travaille sur un projet super intéressant, super important, plusieurs projets mais notamment un gros projet qui s'appelle Debian. Et ce développeur, il s'appelle Karl Schoenet. Bonjour Karl.
Bonjour Stéphane.
Alors Karl, tu es donc contributeur Debian, ce qui est déjà super bien quoi, donc tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Mais alors tu as aussi fondé le journal du hacker, tu vas nous en parler, tu as aussi fondé linuxjob.fr, et puis donc tu as un blog qui s'appelle karlschoenet.com. Alors on verra ça après dans le fil de l'émission. Tu as notamment parlé récemment du projet, enfin du système de gestion de projet de logiciel libre qui s'appelle GitHub, en critiquant certains de ses aspects, on va en parler aussi. Et ça va nous permettre aussi de réfléchir au niveau des structures de réseau, au niveau aussi des structures de logiciels, des licences logicielles, on parlera aussi de licences. Et tout ça après nous amènera à faire peut-être un petit parallèle sur la monnaie. Alors d'abord, contributeur Debian, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais sur Debian? C'est quoi Debian d'abord?
Alors, Debian, c'est le projet de créer au départ une distribution Linux avec la suite d'outils GNU. Donc, ça veut dire qu'en fait, on utilise le noyau logiciel créé par Linux Torvald et on utilise toute une suite d'outils pour faire fonctionner une distribution comme les gens connaissent bien Ubuntu, Fedora et vous avez Debian. Donc, c'est l'une des premières distributions qui a été créé et aujourd'hui l'une des plus répandues qui est le socle, la base de très très nombreuses distributions dérivées. Je crois que j'ai regardé récemment, c'est plus de 50 ou 60% des distributions dérivées Linux. Donc c'est un très gros projet avec plus de 1000 développeurs dans le monde aujourd'hui. Okay. Et qui fonctionne de manière démocratique avec des élections régulières pour élire nos représentants. Ouais. Et qui ne fait que, pratiquement que du logiciel libre, donc avec, par exemple, lors des dernières versions stables, l'exclusion des drivers propriétaires du noyau Linux. On maintient à côté du projet un dépôt qu'on estime non libre pour nos utilisateurs, mais il est maintenu hors cadre et il doit être ajouté à la main sur chacun des systèmes qui veut l'utiliser.
D'accord. Et toi, ta participation sur ce projet, elle est sur quel domaine exactement?
Alors, lorsque j'ai commencé à participer à Debian, il y avait deux types de participation. On pouvait être mainteneur Debian, c'est-à-dire s'occuper de paquets Debian, qui sont en fait des logiciels que l'on trouve, des logiciels libres que l'on trouve un peu partout, mais le but est d'en faire un paquet qui s'installe facilement sur chacun des systèmes Debian. Donc ça, c'est le premier type de contribution. Et ils mènent en général à devenir développeur Debian. Et développeur Debian est donc quelqu'un qui fait des paquets et vérifie qu'ils marchent bien pour tous les systèmes Debian, mais aussi développe les outils internes. Et à ce niveau, ma contribution a été sur l'outil de rapport de bug, Report Bug, que chaque utilisateur qui veut rapporter un bug à Debian utilise aujourd'hui.
D'accord. Alors tu as parlé, pour faire un petit détour hein, sur la démocratie, tu as parlé de démocratie dans le projet Debian. Alors je crois savoir, et c'est, je pense c'est intéressant, que les votes se font avec la méthode Condorcet.
Exactement, tout à fait. Donc il y a plusieurs votes pour différentes vies, pour les différentes étapes de la vie du projet. Bon, le plus important est l'élection de notre représentant qui s'appelle le Debian Project Leader. Qui est élu chaque année. Et donc oui, nous utilisons la méthode Condorcet pour cela. J'ai peut-être pas été assez précis. En fait, il y a deux mouvements dans la communauté Debian de vie. Il y a le mouvement démocratique lors d'élections, mais il y a aussi une part importante de, en anglais, c'est do-ocracy. En gros, c'est celui qui dit qu'il fait. C'est-à-dire que des personnes vont exprimer un besoin, vérifier auprès de la communauté que ce besoin existe. Mais on ne va pas élire un représentant qui va faire le projet. On va commencer à faire le projet, le construire et en prendre nous-mêmes la responsabilité. C'est deux aspects très importants du projet Debian qui permettent aussi d'éviter la lourdeur d'un projet aussi large. Une personne qui a une idée la fait, la réalise et la présente à la communauté. Ça évite des lourdeurs importantes type administratives un peu.
Oui, et puis ça évite les bavardages surtout.
Ça réduit
Ouais, ça réduit. Alors voilà, donc c'est vraiment intéressant ce que tu nous as dit. Alors évidemment, on invite les auditeurs à aller chercher hein, ces sujets plus en profondeur, notamment la méthode Condorcet. Vous avez toutes les informations sur Internet. On va pas en parler longtemps. On va continuer sur tes autres projets. Alors, Journal du Hacker et LinuxJobs.fr. Là, deux autres projets que tu as lancés. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, le Journal du Hacker est un média aujourd'hui participatif, francophone, pour mettre en avant tous les articles intéressants produits par la communauté francophone au niveau du logiciel libre. C'est en fait un projet qui est un peu comme le projet Hacker News, qui est un très gros site où les gens viennent poster des liens, des articles qu'ils ont trouvés intéressants. Eh bien, nous avons, avec le journal du Hacker, nous avons réalisé la même chose, mais pour la communauté francophone. Donc, les contributeurs du projet postent des liens et après, grâce à un système de vote, les liens les plus intéressants, donc en langue française, sont mis en avant sur le site et restent le plus longtemps à la vue de tous. Nous avons comme ça constitué une communauté de personnes assez importantes qui proposent leur contenu et ce contenu est mis en avant pour toute la communauté francophone.
D'accord. Et alors pour maintenant linuxjobs.fr.
Donc LinuxJobs.fr est un projet un peu plus traditionnel de site d'emploi. Je me suis aperçu moi-même étant travaillant dans la communauté du logiciel. Du logiciel libre, qu'il y avait un réel manque à ce niveau. Les offres d'emploi sont en général sur des sites généralistes qui ne comprennent absolument pas les enjeux de notre communauté. J'ai donc choisi de faire un site d'emploi, linuxjobs.fr, afin de mettre en avant des sociétés qui postent des annonces recherchant des gens avec des compétences liées au logiciel libre et ainsi leur proposer un public à la recherche d'emploi qui cherche ces compétences. Comme ça, nous sommes dans notre communauté du logiciel libre, à la fois les employeurs et les personnes en recherche d'emploi, et on fonctionne de manière intelligente et entre personnes qui connaissent les enjeux, ce qui n'est pas le cas sur les sites généralistes.
Ouais, d'accord. Alors, je suppose que tu connais du coup assez bien notre ami blogueur aussi et responsable informatique de logiciels libres qui s'appelle Philippe Scofoni. Tu dois bien le. D'accord, tu dois le connaître aussi et il doit s'intéresser à ce type de démarche.
Oui, il lit régulièrement, en tout cas pour le journal du hacker, il lit régulièrement.
Alors sur ce, je vais te faire une petite question un petit peu piège, mais alors sur ce site linuxjobs.fr, est-ce qu'il y a les tarifs des emplois proposés sont notés?
Alors, donc nous ne sommes qu'un relais. Entre les gens en recherche d'emploi ou qui veulent chercher un nouvel emploi et les recruteurs. On n'impose qu'une seule chose au niveau du site, c'est que les technologies utilisées doivent être entièrement liées au logiciel libre.
D'accord.
Voilà. Donc, pour répondre à ta question directement, non, nous n'imposons pas l'apparition du salaire.
Mais ça arrive parfois que le que ce.
Ah oui.
D'accord.
Oui, c'est régulier, hein. Moi, je suis en contact avec les recruteurs pour beaucoup d'entre eux et je précise souvent que ça permet quand même de faire un tri important. Tout de suite, les gens savent en gros s'ils vont être intéressés ou pas avec le salaire. Donc, pour moi, c'est un argument voilà, qui est quand même utilisé.
Et alors, est-ce que l'unité monétaire qui est utilisée pour afficher ces prix, elle est libre ou elle n'est pas libre?
Non, enfin, elle est pas libre à ton sens, je pense, vu que c'est notre bonne monnaie classique en euros.
Ouais, d'accord. Donc voilà, donc c'était la question piège. Donc alors maintenant on va arriver au sujet hein, qui m'a intéressé pour lancer ce podcast. C'est que tu as fait un deuxième post, t'en avais fait un premier que j'avais déjà pu lire en détail. Je crois que je l'avais vu d'ailleurs sur le Framablog qui avait dû le reprendre.
Tout à
Et
fait.
j'ai vu le deuxième passer du coup parce que suite à cet article j'ai dû te mettre dans mes flux RSS. J'ai dit, tiens, il est intéressant ce Garchenet là, il dit des choses intéressantes. Donc, tu avais parlé de GitHub. Alors, tu avais parlé de GitHub pour le critiquer, pour mettre en évidence en tout cas certains dangers. Alors,
oui, tout à fait.
alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous expliques à nos auditeurs d'abord qu'est-ce que c'est que GitHub, d'où ça vient, quel est son historique, puisque tu dois connaître un peu, et puis ensuite nous expliquer en quelques minutes, on a le temps, ceci dit, on n'est pas pressé, comment et pourquoi voilà, tu t'es intéressé à faire ces posts sur GitHub et ce qui ne va pas selon toi.
Très bien. Alors, donc GitHub est une source, est une forge logicielle. Alors, qu'est-ce qu'une forge logicielle ? C'est un ensemble d'outils qui permet aux développeurs d'enregistrer son code source, de le faire évoluer de manière intelligente, d'être capable de travailler en collaboration avec d'autres développeurs et tout cela, s'il le veut, et dans le cas du logiciel libre, c'est le cas le plus souvent, de le partager avec le public. Donc, GitHub est une forge logicielle qui permet ce type d'action. Elle est aujourd'hui, on va dire, je pense, adoptée par la grande majorité des projets du logiciel libre. Elle a su s'imposer assez rapidement. Hein. Je crois que GitHub, ça doit être quelque chose comme 4-5 ans. Avant, il y avait plusieurs forges, mais elle a remplacé une forge plus traditionnelle qui s'appelle SourceForge. On va en reparler. Donc, pourquoi GitHub et pourquoi le succès de ce projet, donc, qui est un logiciel propriétaire, hein, donc, qui est un service, en effet, mais qui derrière tourne de manière complètement close. On n'a pas accès aux sources, bien, on connaît quelques technologies qu'ils utilisent, mais on n'a pas accès à l'intégralité du code source qui permet de propulser ce service en ligne. Donc, pourquoi un article sur GitHub ? C'est parce que, comme je le disais, il est devenu aujourd'hui prépondérant dans notre communauté, donc communauté du logiciel libre. Pratiquement tous les projets, j'exagère, mais vraiment une très très grande majorité des projets du logiciel libre l'utilisent aujourd'hui. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils ont été, ils ont eu une idée très intéressante. C'est en fait de créer une espèce de communauté que chaque personne puisse interagir avec chaque personne, que chaque utilisateur de GitHub puisse interagir avec les projets à la fois, en les notant, en leur mettant des petites étoiles, en contribuant directement. Et pareil pour les développeurs entre eux, qui sont capables d'interagir. GitHub s'est ainsi positionné aujourd'hui comme un acteur incontournable de la communauté du logiciel libre, alors qu'il n'est pas lui-même
libre.
Un logiciel libre.
Ouais. Alors pourtant, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc là tu viens de décrire, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un rapport ou il y a un lien, ou en tout cas il y a une affinité forte, enfin tu vas nous expliquer ça sans doute mieux que moi, avec GitLab, qui lui est libre par contre.
Oui, alors GitLab est une forge logicielle également,
oui.
Qui ressemble beaucoup à GitHub. Dans son fonctionnement, elle n'est, contrairement à GitHub, on va en reparler, qui est fortement centralisé, GitLab est au départ fait pour être installé par exemple par une entreprise et permettre aux développeurs de cette entreprise de travailler, ou par un projet de logiciel libre dont les différents développeurs vont pouvoir travailler, mais de manière close. C'était l'idée à la base de GitLab. Aujourd'hui, GitLab est toujours positionné sur ce créneau, mais a fourni aujourd'hui un service qui s'appelle GitLab.com et qui est en fait la même chose que GitHub, mais propulsé par un logiciel libre pour le coup.
Donc ça veut dire qu'on peut installer sa propre instance de GitLab et ainsi partager son code un peu comme sous GitHub, mais du coup en maîtrisant son code informatique alors.
Voilà. Par exemple, un projet de logiciel libre qui veut choisir entre GitHub et GitLab peut prendre GitLab, va mettre son code dessus, le rendre public, permettre aux gens d'interagir avec eux, de proposer des améliorations.
Oui.
Ça va être comme GitHub. Le seul aspect qui va manquer, c'est l'aspect centralisation, c'est-à-dire que des personnes ayant un GitLab de leur côté ne vont pas pouvoir tirer parti l'aspect communautaire, les notes entre les développeurs qu'ils avaient déjà et l'échanger avec un autre GitLab. Pour l'instant, ces différentes instances sont cloisonnées. Ça n'est pas un système comme le réseau social Diaspora,
oui.
Chaque instance est en fait, chaque instance privée des personnes est en fait interconnectée. Voilà, GitLab est pour l'instant isolé. Donc pourquoi avoir parlé du danger GitHub? C'est parce que, donc, comme je le disais, le premier ASP, ça a été le fait qu'un logiciel, ce qui m'a troublé, c'est qu'un logiciel que je qualifie de propriétaire, qui se présente sous la forme d'un service, certes, mais dont nous n'avons pas accès au code source aujourd'hui, ait pris une place si prépondérante dans notre communauté. Pour moi, ça a été le déclencheur.
C'est un paradoxe. C'est un paradoxe.
Oui, exactement. C'est un paradoxe, comme je le souligne dans mon article Le danger GitHub. J'ai trouvé ça très surprenant. Et alors, ça fait. Donc, je suis très. Via mon activité sur le journal du hacker, je suis très, très au courant de ce qui se passe dans la communauté, que ce soit en anglais ou en français. Et je vois depuis des années des articles passés qui font l'éloge de GitHub. Donc, ils disent oui, c'est super parce qu'on l'utilise comme ça, c'est lié au logiciel propriétaire Git qu'aujourd'hui la majorité des développeurs informatiques utilisent, et c'est super parce que les interactions entre l'interface GitHub et le logiciel Git qui gère le code source Git se passent très bien. Voilà. Il y a eu énormément de compliments sur ce logiciel, et moi, je me suis intéressé à. Pour une fois, et surtout en français, je n'avais jamais vu d'article, passer un article qui soit plutôt critique.
Oui, d'accord, il est effectivement bien critique. Alors, quels sont les dangers, justement, d'héberger comme ça ces codes sur un silo centralisé tel que celui-là?
Alors, donc, c'est à la fois... certains des dangers que j'ai soulignés sont à la fois une qualité... et un défaut. Je dirais que tout dépend du contexte dans lequel on se place. Par exemple, le premier, ça va être la centralisation. La centralisation s'est avérée pour GitHub le déclencheur de leur succès, dans le sens où en créant une communauté énorme de développeurs dont les développeurs pouvaient interagir entre eux et faire du social, on va dire, au sens... leur logo dit social coding, donc développé de manière sociale, les gens peuvent interagir entre eux. Voilà, ça, vraiment, cette centralisation a fait le succès de GitHub. Mais on sait aussi que pour une communauté, la centralisation peut être un fort danger. Moi, j'ai dégagé plusieurs défauts vis-à-vis de cette centralisation, par exemple. Le premier, c'est tout simplement... la disponibilité du service. Typiquement, aujourd'hui, avec les services en ligne, on sait qu'on peut avoir des problèmes techniques qui emmènent une indisponibilité du service. Si le service est indisponible et que le service est utilisé par la majorité des développeurs dans le monde, bah, ça veut dire que le travail s'arrête lorsque le service est indisponible. Un autre point important, ça va être aussi que GitHub est une société commerciale. Donc, si jamais l'État américain lui tombe dessus pour une raison X ou Y, elle peut tout simplement devenir indisponible pour des raisons légales dans son pays pendant assez longtemps. Et ça va avoir des conséquences terribles pour la communauté, parce que quand on sait bien que lorsqu'une une administration s'intéresse à une entreprise et arrête son activité, ça peut durer plusieurs mois.
Oui, mais pas, quand c'est pas plusieurs années.
Exactement.
Alors, par rapport à ça, et quand tu disais, quand on comparait avec GitLab, où on pouvait avoir son instance, mais qui communique pas entre eux, est-ce que tu connais le... Moi, ça m'a fait penser tout de suite, est-ce que tu connais aussi le projet, au-delà de Diaspora, le projet Media Goblin?
Ah non, ça ne me dit rien.
Ça te dit rien? Alors, pour en dire quelques mots, Media Goblin, c'est l'idée de faire un réseau décentralisé d'accès à des contenus multimédia, typiquement des vidéos, mais qui ne soit pas centralisé comme aujourd'hui les systèmes comme YouTube ou ce genre de choses, bien sûr.
Ah, d'accord.
Et donc l'idée, c'est que on puisse avoir des pods comme ça où on met ses propres vidéos, on pourra les consulter comme aujourd'hui on peut consulter un YouTube, mais ça serait décentralisé de ce point de vue-là. Et il y aurait aussi notamment, enfin entre autres possibilités, mais notamment, un moteur de recherche intégré qui chercherait sur l'ensemble des pods. Donc il y aurait quand même une connexion du réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas que des instances isolées, elles seraient aussi communicantes entre elles. C'est ça l'idée.
D'accord, très bien. Oui, c'est des bons points, ça.
Voilà, donc ce qui ressemble un peu au réseau BitTorrent, si on veut, ou à des applications aussi comme Popcorn Time ou ce genre de choses dont que tu connais sans doute un peu, qui proposent aussi sur le protocole BitTorrent de pouvoir accéder directement à des contenus multimédia. Bien sûr Lego. Hein, voilà. Donc, on a parlé de ce problème. Alors toi, ton choix, ça serait quoi du coup? Ça va être quoi? Parce qu'une fois que tu as dit ça, ça veut dire sans doute que tu, comme tu as pisté ces problèmes, que tu as commencé à y réfléchir et est-ce que tu as décidé de te mettre en action vers, par exemple, l'utilisation de GitLab à la place de GitHub, ou quelle est ton idée?
Alors, il y a plusieurs problèmes à ça, dans le sens où, évidemment, il est intéressant d'avoir une action, de s'échapper de ça. Moi, pour mes projets personnels, j'ai utilisé pendant très longtemps une forge logicielle qui s'appelle Redmine, qui est l'équivalent, on va dire, de GitLab. GitLab étant aujourd'hui un peu plus à jour, un peu plus sexy. Mais il y a quand même un point considérable lié à la centralisation à laquelle est arrivé GitHub. C'est quand même que quand tu as 90% on va dire des développeurs du monde qui utilisent GitHub et que les projets sont dans GitHub, la centralisation a atteint une masse critique et elle s'auto-alimente en fait. C'est-à-dire que les gens qui arrivent dans notre métier ou ceux qui voudraient y échapper sont aspirés. Pour te donner un exemple, j'ai eu pendant très longtemps donc un projet qui s'appelle Backup Checker qui était sur une forge logicielle Redmine. J'ai eu très très peu de contributions. Le jour où je l'ai passé sur GitHub pour essayer de développer sa visibilité, parce qu'il n'y a pas que les gens qui accèdent, il faut aussi faire voir aux autres son code source, et ben, j'ai eu tout de suite quelques contributions au projet. Donc on est vraiment arrivé à une masse critique, un peu comme dans le domaine de la recherche sur Internet, Google. On en est vraiment là, et au niveau de cette forge logicielle, c'est que vraiment aujourd'hui il est extrêmement difficile de s'échapper de cette masse critique qu'ils ont atteint et des effets, des avantages que ça apporte en termes de visibilité, d'utilisation et de confort d'utilisation par rapport au fait que lorsqu'on va tenter de s'échapper de cette communauté, de s'isoler et de faire venir les gens sur ce projet. Ça va devenir un combat en fait.
D'accord. Et est-ce que cette masse critique ici, que tu nous dis, est-ce que c'est finalement pas aussi le penchant naturel qu'on peut avoir pour le confort plutôt que d'aller vers l'effort, quoi ?
Si, tout à fait, c'est une très bonne remarque que tu as là. C'est fortement lié parce que GitHub s'est vendu comme une interface web très facile à utiliser, très intuitive, bon, selon l'emploi tort à travers. En tout cas, il s'est avéré que les gens ont été séduits. Ils venaient d'une forge logicielle également propriétaire qui s'appelle SourceForge, qui est très intéressante d'ailleurs l'ancêtre de GitHub. Et donc, GitHub était beaucoup plus à jour, Web 2.0, les gens se sont jetés dedans. Aujourd'hui, oui, et donc on est clairement dans un confort, une centralisation très poussée qui fait que les gens qui vont voir ou qui veulent s'échapper à ça font vraiment un effort. C'est vraiment un choix, vraiment, d'échapper à ça.
D'accord. Alors, si tu veux bien, Karl, on va faire une première pause. Enfin, on va pouvoir faire une première, je pense qu'on en fera qu'une, ça sera déjà pas mal. On va faire une première pause musicale. Et puis après la pause, on va parler licence libre, pour essayer d'expliquer un peu mieux ce que c'est que le logiciel libre. Et puis, bien sûr, on parlera un peu monnaie, puisque je sais que tu t'es un peu penché sur la question, sans forcément être un spécialiste, et notamment je crois savoir que tu as installé d'ailleurs sur ta machine le client Ucoin Shakya.
Hein, tout à fait. Donc, tu vas à la conférence au rencontre mondiale du logiciel libre.
Eh bien, on verra ça donc juste après la pause. Donc d'abord les licences libres, et puis ensuite donc on parlera monnaie. À tout de suite donc sur Monnaie Libre après cette pause musicale. Thank you. Donc nous voici de retour dans Monnaie Libre après cette pause musicale, toujours avec Karl Chenet, hein, toujours avec nous Karl. Hein.
Tout à fait.
Alors donc ton blog, hein, karlchenet.com tout simplement, contributeur Debian, on a vu, tu as fondé aussi le journal du hacker, tu as fondé aussi linuxjobs.fr, hein, très actif, et on a parlé, hein, de tes posts et de ton avis et de ton analyse, hein, qui me semble extrêmement pertinente sur... la différence qu'il peut y avoir entre centralisé, non libre et décentralisé et libre. Tu as parlé de GitHub, on a évoqué GitLab qui est son alternative justement libre. On a parlé aussi des problèmes de centralisation avec cette notion de eh bien, évidemment, de facilité qu'il peut y avoir à rejoindre une communauté déjà installée, mais avec les dangers que ça suppose pour quelque chose qui n'est pas libre, alors que bon, bah, en faisant des efforts, on peut parfois s'en défaire, mais évidemment, il faut lutter contre le confort. Hein.
Exactement.
Alors, on va en profiter pour aller un peu plus loin, avant de parler un peu monnaie, puisque je sais qu'on en a parlé un peu en première partie, tu t'intéresses un peu à la question, et on va pouvoir t'entendre sur le sujet. Mais avant ça, on va parler de licence. Alors, parce qu'on a parlé non libre, libre, mais alors... on va essayer de détailler ça. C'est quoi un logiciel libre en fait? Qu'est-ce qui distingue un logiciel libre d'un logiciel qui ne l'est pas?
Alors, nous allons commencer par parler d'un logiciel non libre. Donc, en général, quand vous utilisez un logiciel non libre, que vous l'installez, il arrive un moment où on vous demande d'agréer les conditions d'utilisation. Donc, comme décrit bien le terme, c'est des conditions d'utilisation. Donc, on vous autorise à utiliser le logiciel. Vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière prédéfinie dans cette condition d'utilisation et ça va se limiter à ça. Un logiciel libre, par contre, qui utilise une licence libre, va non seulement définir des conditions d'utilisation, mais aussi de modification du code source de ce logiciel, de l'échange de ce code source entre les différents développeurs intéressés et de modification de l'existant. Donc là, on est vraiment dans une utilisation totale du logiciel.
D'accord. Alors notamment, donc, cette possibilité finalement qu'on a avec le logiciel libre, que quand on reçoit le logiciel, on reçoit donc le code source avec, et on a les mêmes droits finalement que celui qui nous l'a donné, même si c'est le développeur initial, on va pouvoir le transformer et l'adapter à nos besoins.
Tout à fait. C'est le but donc des licences libres, de définir les droits par rapport au créateur du logiciel qui a adopté cette licence et bien définir le contexte d'utilisation, de modification et d'échange du code source principalement.
Alors, et notamment, on peut dire que selon la licence libre historique la plus répandue, qui est la General Public License du projet GNU, inventée par Richard Stallman, cette licence-là, elle établit, on peut dire, une forme de symétrie finalement entre le développeur initial du logiciel et les utilisateurs, mais aussi développeurs ultérieurs, puisque en fait tout le monde a quasiment les mêmes droits sur ce code source et doit respecter ces mêmes droits, c'est-à-dire que si je fais une modification et que je transmets le logiciel, eh bien je dois transmettre le code source modifié avec. Hein.
Oui, tout à fait. Alors là, tu parles de la licence GPL.
Oui.
Donc, je ne serai pas aussi catégorique que toi sur l'utilisation majoritaire de la GPL. On a tendance à ignorer qu'aujourd'hui, en particulier dans les applications web, qui sont bien développées depuis maintenant 5 à 10 ans, la MIT et la BSD, qui sont des licences plus permissives, je vais revenir dessus dans quelques instants, se sont bien développées. Hein. On a vraiment un parc aujourd'hui de logiciels libres très très important dans ces licences, qui ont une différence importante donc par rapport à la GPL. C'est la notion elles sont définies de non contaminants. Alors je vais revenir dessus. Tu as dit que la GPL, en effet, on peut modifier le code source. Et lorsque vous modifiez le code source d'un projet, ben, dans les conditions d'utilisation et de redistribution de la GPL, vous devez fournir, lorsque vous rendez le logiciel public, les modifications que vous avez apportées. Ainsi, la communauté nourrit la communauté. Ce que vous avez produit dans le contexte d'une communauté qui vous a donné du code source, et ben vous, si vous avez apporté des modifications, vous les rendez publiques également. Donc c'est du donnant-donnant, et ainsi la communauté, le parc de logiciels dans la communauté grandit. Les licences BSD MIT, c'est un peu différent, et ça part d'une idéologie d'une idée politique assez différente par rapport à la LGPL, hein, qui est très influencée par les idées de gauche. La BST MIT, ça va être une liberté totale, sans restriction. Donc ça, on vous donne un logiciel, et vous, vous pouvez apporter toutes les modifications que vous voulez, le modifier, le transformer, et là va être la différence avec la GPL, vous pouvez les rendre publics ou non. Ça veut dire que, pour donner un exemple très concret, vous pouvez prendre un logiciel libre à la base, le modifier, l'adapter à vos besoins, et en faire un logiciel propriétaire que vous allez revendre. Donc vous allez revendre uniquement l'utilisation, vous n'allez pas revendre le code source. Alors,
c'est une drôle de liberté qui n'est pas symétrique, alors en fait. C'est pas ne pas faire à autrui ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, ça ressemble à ça, mais est-ce que, je veux dire, toutes les personnes qui obtiennent le code source ont les mêmes droits de fermer ou pas ce code source? Alors, dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une asymétrie dans le fait que vous n'êtes pas obligé de redonner à la communauté les modifications que vous avez apportées.
Mais c'est-à-dire la symétrie, effectivement, le droit est réparti, mais la symétrie consiste dans le fait que le donneur initial a bien donné son code source et qu'en face, on peut ne pas effectivement respecter cette symétrie, c'est-à-dire moi aussi, si je fais un ajout, je vais donner le code source avec. C'est bien sûr on peut comprendre l'idée, mais on voit aussi le danger. Donc c'est en tout cas ce qui est important dans cette analyse, c'est de comprendre les différences. Voilà, je crois que
oui.
Si...
Alors encore un point sur ça, vraiment, donc la GPL donc est considérée comme contaminante,
oui.
Parce que lorsque vous développez à partir d'un code source existant des nouvelles fonctionnalités, et ben vous allez devoir redonner avec la même licence, ces fonctionnalités à la communauté. Donc on dit qu'il y a un effet de contamination. Tous les nouveaux logiciels GPL que vous créez à partir d'un logiciel GPL, eh ben, la GPL grandit en fait, fait tache d'huile au niveau des logiciels qui la composent. Par contre, les licences BSD et MIT, comme vous pouvez rompre la chaîne à chaque instant, à chaque fois que vous recevez un logiciel sous MIT, vous pouvez le transformer en logiciel propriétaire ou vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce sont des licences dites non contaminantes. Et ça a fait leur succès donc dans les milieux d'entreprise où clairement les gens sont peu au fait du droit des logiciels et surtout sont très protectionnistes dans ce qu'ils fournissent au grand public. Les gens se méfiant, très souvent la MIT et la BSD ont été utilisées, parfois pas pour des raisons pratiques, mais juste par peur de rendre public trop de choses.
Ouais. Alors toi, ta philosophie, évidemment, alors si tu es sur Debian, notamment le Debian, c'est la GPL.
Tout à fait. Alors, Debian gère tout type de licence libre, mais on privilégie en effet la GPL dans nos développements.
D'accord. Et toi-même, alors, vers ton cœur, il penche vers quoi ?
Tous mes projets sont GPL.
Voilà, donc quand même, toi, tu as quand même une préférence quand même pour la symétrie réelle où je veux bien... Je vous donne le code source, mais j'espère bien que si vous faites des modifications, vous me les donnerez aussi.
Voilà, tout à fait. Moi, je suis très intéressé par le développement de notre communauté d'idées et techniques du logiciel libre. Donc, je pense avoir tiré, moi, de grands fruits du travail de mes prédécesseurs et je veux apporter ma contribution à la communauté.
D'accord. Alors, on a parlé travail, on a parlé contribution, on a parlé production de valeur, logiciel libre. J'avais fait un post... sur créationmonétaire.info, mais c'était une reprise d'ailleurs d'un autre post qui devait être fait en anglais, qui parlait de Debian justement, et qui avait valorisé Debian à, je sais pas si c'était pas 2 milliards d'euros ou plus, ou peut-être même 10, c'était une somme assez importante, qu'on ne voit pas dans l'économie, qui n'apparaît pas dans le PIB, parce qu'il n'y a aucune monnaie, en tout cas très peu de monnaie qui est véritablement, injecté dans le système pour ce développement-là. Il y a quand même beaucoup de développement bénévole. Il n'y a pas que du développement bénévole aussi, bien sûr. Il y en a aussi. Il y a aussi des poussées économiques pour contribuer au logiciel libre, mais c'est plus difficile, comme tu le disais. En général, il y a quand même une réticence à partager le travail fourni. Bref, donc on a parlé de tout ça. Donc forcément, ça nous amène à réfléchir à la monnaie. Alors, d'essayer de finir ce podcast en parlant un peu de monnaie, même si bien sûr, c'est pas ta spécialité première. Mais ça nous amène à réfléchir à la notion de symétrie dans la monnaie, qui notamment sert d'unité de mesure. Alors, quand c'est une unité de mesure, ça peut poser des problèmes, le fait qu'il n'y ait pas de symétrie. Alors, je crois que tu t'es un peu intéressé à la question, même enfin, plus qu'en tout cas beaucoup d'autres personnes, puisque, bon, en nageant dans le logiciel, forcément, tu as été au courant de la percée de Bitcoin. Tu as installé le logiciel Shakya, ou Sakya, donc client du projet YouCoin de monnaie libre. Et je crois que tu as aussi donc assisté à une conférence sur la monnaie libre où tu as pu analyser et percevoir la différence qu'il pouvait y avoir entre les types de monnaie.
Oui, c'est ça. J'étais très intéressé en particulier par l'aspect de la création de monnaie au sein du logiciel, au sein des monnaies libres, pardon. Étant un utilisateur occasionnel de Bitcoin, de Litecoin, aujourd'hui intéressé par le projet Ethereum, voilà, je suis très intéressé et quand je vois la difficulté en particulier de l'accession à ces monnaies pour les gens, je suis très intéressé par le projet de YouCoin.
Ouais, d'accord. Alors tu l'as installé, Shakya, et tu as reçu tes premiers dividendes alors
C'est ça, tout à fait.
C'est beau ça, donc ça t'a fait plaisir.
Exactement.
Et alors comment
un côté très satisfaisant, pardon.
D'accord. Et alors comment tu qualifierais, comme tu as vu aussi des conférences sur cette notion-là, comment tu qualifierais cette distinction qu'on peut faire entre, et que fait la théorie relative à la monnaie, entre monnaie libre et monnaie non libre? Est-ce que tu pourrais arriver à décrire ça?
Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais disons que la différence principale, moi, qui m'a sauté aux yeux entre monnaie libre et non libre, c'est la création de monnaie. Et en particulier, ce que dans ta conférence m'avait sauté aux yeux, c'est l'inégalité créée par l'arrivée des différents agents économiques dans le temps.
Oui.
Je n'avais jamais pensé un seul instant à cet aspect, et c'est là où je me suis dit, d'une manière naïve et en tant que personne pas du tout extérieure à la question de la monnaie, qu'en effet, il y avait une inégalité de fait.
Oui. Ben oui, c'est un peu comme. Je crois que c'est un des facteurs qu'on peut voir dans cette économie dans laquelle on vit avec la monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui, la monnaie dominante. C'est qu'on peut constater qu'il y a eu des périodes, notamment dans les années 60, 70, où il y a eu des créations de monnaie faites de façon assez massive et réparties à peu près, en tout cas à peu près équitablement dans l'économie. Et qu'on arrive à des périodes aujourd'hui où c'est plus du tout le cas, où les stocks se figent et où il n'y a plus de création monétaire pour les nouveaux arrivants. Et c'est, selon la théorie relative à la monnaie, effectivement un facteur bloquant. Mais ça ressemble un peu à des dangers de centralisation aussi. Donc on avait parlé justement dans la première partie, c'est-à-dire que si on crée la monnaie en faveur de certains acteurs, que ce soit géographiquement situé ou temporellement situé, eh bien, on leur donne un pouvoir de concentration économique, de la même façon que GitHub, qui concentre tous les codes logiciels, acquiert un tel pouvoir à un moment donné qu'il devient un pôle d'attraction. Donc le pôle d'attraction économique va, comme on dit souvent en économie, il faut aller là où est l'argent. Mais si l'argent, si la monnaie a été distribuée à un certain endroit, c'est évident que c'est vers cet endroit-là que les gens vont se diriger, et pas forcément donc pour des bonnes raisons, mais pour la simple raison que la création monétaire s'est faite ici, quoi.
Tout à fait. Et j'ai trouvé ça particulièrement flagrant avec les nouvelles crypto-monnaies et le Bitcoin, parce qu'en fait, je m'y suis intéressé il y a très longtemps.
Oui.
Et j'avais suivi ça de loin, j'avais regardé ça d'un œil, et bon, à l'époque, je n'étais pas vraiment entré dedans. Et aujourd'hui, la difficulté et l'accès au Bitcoin, comme je crois que. Déjà, la majorité de la monnaie, en fait, le nombre de bitcoins créés est fini et il y a une part déjà très importante des bitcoins a été créée. Le prix du bitcoin et les sous-divisions du bitcoin en termes de monnaie sont très très importantes.
Oui, oui, et puis donc il y a cette inéquité que, ben voilà, j'arrive en dernier, si j'ai 20 ans aujourd'hui en 2016 vis-à-vis du bitcoin, je ne suis pas dans la même situation que si j'avais eu 20 ans en 2008.
C'est ça, tout à fait. C'est ça qui m'a sauté aux yeux.
Oui, donc voilà. Alors, et qu'est-ce que tu en penses de ça? Et notamment, alors, qu'est-ce que tu penses aussi de la réflexion qui nous pousse à considérer que, avec le logiciel libre, on comprend On comprend finalement qu'il y a des types de création de valeurs économiques qui sont utiles, qui sont utilisées, qui donc sont effectivement de la valeur ajoutée, mais qui se construisent de façon, je dirais, majoritairement bénévole, pour pas dire complètement, majoritairement bénévole, et qui ont du mal à, qui ont du mal à monétiser leur créateur. C'est-à-dire que parfois la monétisation se fait, mais bien après que le créateur ait fourni le travail, ça peut être 20 ans après, et peut-être il est déjà mort d'ailleurs, on va valoriser l'objet, mais en fait le créateur lui n'a pas eu de compensation finalement pour l'apport économique que pourtant il a fourni aux autres.
Oui, c'est un phénomène assez incroyable, je pense, et tu prenais l'exemple du projet Debian. Le projet Debian, hein, c'est 99% de bénévoles. Et encore, les gens qui ne seraient non bénévoles, en fait, sont payés par une société pour travailler au sein du projet Debian. Mais tu n'as que des acteurs particuliers au sein du projet Debian. Pour faire tourner, par exemple, les serveurs, c'est des dons de matériel. On dépense un peu d'argent lorsqu'on est vraiment obligé. Les fonds du projet Debian sont publiés chaque année et c'est quelques dizaines de milliers de dollars pour un projet de plus de 1 000 personnes. Enfin, on est vraiment dans l'associatif. Debian n'est pas une association, mais le mode de fonctionnement, c'est vraiment du bénévolat complet. Or, il y a une valeur économique effarante qui doit reposer sur le projet Debian, parce que la majorité des serveurs web du monde tournent sous Linux aujourd'hui, et Debian est la partie la plus importante des serveurs Debian en activité. La somme logicielle et le travail fourni par les bénévoles du projet sert aussi bien aux entreprises qu'aux associations, mais il y a énormément d'entreprises qui utilisent Debian pour faire tourner leurs services à forte valeur ajoutée. Donc là, on est vraiment devant un cas flagrant de valeur économique qui n'est pas reconnue ou qui n'arrive pas à s'exprimer quelque part.
Oui, alors je crois même qu'il faut être plus précis. Il faudrait éviter le terme bénévole parce que je pense que, comme le dit Richard Stallman, mais je ne suis pas contre le fait d'être rémunéré pour produire du logiciel libre. Et ce qu'il expliquait aussi, alors ça c'était pour expliquer l'ambiguïté du mot en anglais, puisque free veut dire à la fois gratuit et libre. Il disait donc free as in free speech, not free as in free beer, c'est-à-dire libre comme un libre discours et pas libre comme une bière gratuite. C'est-à-dire que libre signifie pas gratuit en fait, voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est libre qu'on n'a pas le droit de rémunérer les producteurs.
Bien évidemment, bien évidemment.
Voilà, on a le droit de le faire, mais le paradoxe étant qu'il n'y a pas de réclamation au départ. C'est-à-dire que c'est fait, on n'est pas contre une rémunération, mais la structure même de ce qu'on produit, de ce qui est produit par cette permissivité, cette liberté qui est permise sur l'objet fourni, et qui en plus se distribue à coût quasi nul, c'est ça aussi qui fait la chose, fait que le travail produit, pourtant, qui est un vrai travail, qui est une vraie valeur ajoutée, qu'il ne faut pas du tout considérer comme justement gratuit, ça n'est pas gratuit, eh bien, il ne trouve pas sa valorisation parce que, en fait, in fine, ben, c'est peut-être la monnaie dans laquelle on est justement qui ne reconnaît pas ce type de valeur.
Très bien.
Hein, je sais pas ce que tu en penses de ça. Parce que jusqu'à présent, on pourrait dire que c'est seulement les valeurs qu'on considérait comme produites par l'État, comme bien commun ou bien public, qui pouvaient se permettre de payer des personnes pour les produire indépendamment d'une recherche de profit ou de rentabilité immédiate. Alors que là, on est devant une production de biens qu'on pourrait qualifier de commun au public, mais qui se fait sur une base de, je dirais, d'initiative individuelle et non pas étatique, hein.
Oui, c'est tout à fait le cas du projet Debian. Le projet Debian n'a même pas de structure juridique. Il y a une association aux États-Unis qui gère les avoirs et on va dire la propriété du parc informatique de Debian, mais bon, dans les faits, les gens qui sont touchés de près ou de loin par l'association en question sont extrêmement faibles, hein. Donc la structure repose, comme tu dis, avant tout sur des initiatives individuelles, en fait, si on
Ouais.
peut réduire ça.
Donc on a la preuve là avec le logiciel libre, mais ça doit être vrai du coup dans plein d'autres domaines, que ben, finalement les individus créent des valeurs qui sont difficilement valorisées dans le système monétaire en place, hein.
Oui, et ce qui est d'autant, enfin, le paradoxe là-dessus, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que tu as des pans entiers de l'économie et des entreprises qui reposent,
et qui reposent dessus.
Pourtant sur ce travail, sur le résultat de ce travail.
Donc il y a un scandale là, économique flagrant.
quelque chose de frappant. Aujourd'hui, tu faisais bien la différence entre bénévoles et personnes payées pour travailler sur un projet. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus conscience de ça, et tu as de plus en plus de personnes payées pour contribuer à des projets de logiciels libres de grande ampleur. Mais ça reste quand même faible hein, par rapport à la masse de personnes contribuant à des projets qui pourraient développer des rémunérations à hauteur de ce que du poste que tu as fait pour Debian à 14 milliards d'euros, par exemple.
Oui, et alors, qui plus est, il y a une autre problématique devant cette démarche, même si bien sûr elle est légitime, c'est bien bien sûr qu'il y ait des entreprises qui puissent, disons, passer à un investissement sur ce type de projet. Mais c'est que les créateurs initiaux, eux, ils n'auront jamais vu cette rémunération possible. Et que par ailleurs, donc si on ne fait ça à chaque fois que quand on découvre qu'une valeur économique existe, c'est toujours après qu'elle a été créée. Et souvent 10, 20, 30 ans après qu'elle s'est développée et qu'on commence à considérer qu'elle est là. Mais si elle est là, c'est bien que le travail a été fourni avant.
Oui, tout à fait. C'est vrai.
Donc les créateurs initiaux de valeurs économiques nouvelles et qui ont des caractéristiques qui sortent un peu des schémas, qui sont quand même complètement des schémas économiques classiques, eh bien, ne rémunèrent pas leurs auteurs. Voilà, donc si ce n'est avec retard et parfois donc trop tard. Bien trop tard après leur disparition, puisque bon, au bout de 20 ans, en général, il y en a quelques-uns qui ne sont plus là. donc qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là? Parce que forcément, ça rejoint tes initiatives, cet aspect de réflexion monétaire, cet aspect de réflexion donc, sur cette histoire de monnaie libre versus monnaie non libre, cette histoire aussi finalement de ces créateurs qui sont non rémunérés à tort, bien qu'ils produisent des valeurs économiques, mais qui ont des caractéristiques qui justement sortent d'une monnaie qui ne valorise que sur l'investissement productif, rentable, etc. Par rapport à tes initiatives, par exemple sur linuxjobs.fr, on voit bien que là il y a une volonté quand même d'essayer de trouver une interaction économique sur ce type-là. Est-ce que tu prends pas conscience à ce moment-là qu'il y a un lien avec la monnaie qu'on utilise?
C'est une question difficile pour moi qui ne suis pas économiste. Mais en tout cas, pour revenir sur l'aspect des créateurs, en effet, le fait est flagrant. Hein, quand on crée des initiatives, qu'on les développe, que certaines ont des portées économiques et qu'elles sont utilisées, il n'y a clairement aucune barrière, hormis le fait que le créateur va prendre lui-même une orientation à essayer de monétiser son projet. C'est un terme très à la mode, mais pour citer un exemple assez connu maintenant, le créateur de Nagios, qui est un outil de supervision libre, a pendant très très longtemps contribué à la communauté de manière quasiment désintéressée et il a pris un virage il y a quelques années pour essayer de vraiment tirer parti du nom de son projet et du fait qu'il était majoritairement utilisé par des entreprises. Ça a été assez houleux et compliqué dans la communauté. Donc non seulement les gens ne sont pas rémunérés pour créer des projets qui ont un certain succès et des conséquences au niveau de l'économie, mais en plus il peut s'avérer que cela va créer des remous avec la communauté avec laquelle ils interagissent. Donc, c'est vraiment un problème très large.
Ouais, d'accord. Enfin, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. Merci beaucoup, hein, Karl, hein, de tes réflexions hein, sur.
Merci à vous.
Sur le podcast Monnaie Libre. Alors, dernier point peut-être, c'est de te rappeler ou rappeler à nos auditeurs que les 7e rencontres des Monnaies Libres auront lieu à Laval. Du 2 au 5 juin, avec deux jours spéciaux réservés aux développeurs informatiques pour travailler sur la nouvelle version de Yukon qui va changer de nom. Alors, je ne dévoilerai pas le nouveau nom parce que ça va sortir plus tard. Et donc, on va travailler sur Yukon, on va travailler sur Shakya, on va travailler sur Yukon Apps pour développer des monnaies libres. Ça, c'est les 2 et 3 juin. Et puis, les 4 et 5 juin, donc, toujours à Laval. Eh bien, il y aura une journée du jeu Geconomicus, jeu libre, hein, d'ailleurs, déployé sur GitHub. Alors, pour l'instant, c'est sur GitHub, hein, il faudrait le mettre sur GitLab, là, très vite. Jeconomicus, donc pour jouer le samedi, pour découvrir la différence entre les systèmes monétaires, voir comment ça impacte un jeu en changeant uniquement la monnaie et en gardant toutes les choses externes identiques. On voit les impacts à terme, donc voilà, le samedi. Une initiation aussi des travaux pratiques sur la théorie relative de la monnaie. Et puis le dimanche, le dernier jour, 5 juin, des conférences pour présenter le thème des monnaies libres. On parle aussi de logiciels libres aussi, voilà, on parlera des sujets aussi qu'on a évoqués aujourd'hui. Voilà, du 2 au 5 juin à Laval, les rencontres des monnaies libres. Tu y seras peut-être, Karl, on ne sait pas.
Ah, on va essayer.
Pourquoi pas. Donc, merci beaucoup, Karl Chenet, spécialiste Debian, hein, donc. Hein. Journal du hacker, linuxjob.fr, karlchenet.com. Utilisateur de Shakia Yukon, voilà, c'est une excellente chose. Merci à toi.
Et merci à vous de m'avoir reçu.
Voilà, merci à tous hein, de nous avoir suivis sur cet épisode de Monnaie Libre spécial Karl Chenet. On a parlé de GitHub, on a parlé beaucoup de choses, logiciel libre, licence libre. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission Monnaie Libre. En attendant, je vous laisse avec notre générique fétiche No More Dreams. Au revoir.